Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a des compétences en elle. Elle le sait très bien. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les écouter, ses compétences, et les nourrir, quitte finalement à déranger un système bien établi. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Leïla Costa, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Leïla?
Eh bien, écoute, ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup.
Un plaisir de t'avoir. Alors, un parcours de vie assez particulier et vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, cet apogée aussi fait en sorte que tu figures dans les 40 Forbes, je vais y arriver, les 40 femmes Forbes 2025. C'est bien ça.
C'est ça.
Alors,
c'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que ça veut dire que figurer dans les 40 femmes Forbes 2025? Et c'est quoi exactement cette consécration?
Alors en fait, si tu veux, les 40 femmes Forbes, c'est une revue, un magazine aujourd'hui international, qui est également présent en France. Et donc les 40 femmes Forbes, c'est en fait un palmarès de femmes entrepreneurs, mais pas que. Il y a également des actrices engagées, des sportives de haut niveau, etc. Donc ce sont des femmes qui ont marqué un peu l'année 2025. Donc tous les ans, il y a un palmarès qui sort de ces femmes-là, donc qui ont marqué l'année 2025, soit par leur engagement, soit par leur audace, soit par leur travail accompli, ou alors leur façon de porter la France, parce que c'est Forbes de France.
Oui.
À l'international, etc. Donc c'est aussi donner un peu de cette mise en lumière de ces femmes qui s'engagent tous les jours à porter la voix des femmes, de l'entrepreneuriat au féminin et de la puissance d'un réseau ou autre au niveau international et en France également.
Et toi, c'est comme on dit en anglais, all of the above.
C'est ça. Ah, c'est ça. C'est une grande, grande surprise pour moi, mais également une grande fierté en tant que franco-marocaine. Et du coup, oui, mais pas que, hein, c'est une grande fierté également pour ma famille, parce que je suis maman de 4 enfants. Donc, 3 filles aussi. Donc, c'est aussi une grande fierté à faire montrer aussi que les femmes derrière, elles s'engagent et elles peuvent avoir une vie de famille, mais également une vie totalement épanouie dans leur carrière professionnelle.
Et alors,
c'est ça qui fait que...
Oui, justement, toi, tu n'étais pas prédestinée, j'ai l'impression, à être entrepreneur, encore moins dans les énergies, puisque tu as commencé ta carrière en tant qu'infirmière.
C'est ça, exactement. Alors moi, je ne m'y attendais pas du tout. En même temps, quand on est jeune et qu'on travaille, on pense pas, on n'a pas une vision sur du long terme, une vision carriériste derrière. Donc moi, j'ai un parcours assez atypique, comme tu l'as dit au démarrage de l'interview. Donc ouais, j'ai un parcours assez atypique. Je suis franco-marocaine, berbère du nord du Maroc. Donc je suis aussi fille. Et donc moi, je suis née en France. Et effectivement, j'avais pas du tout on n'a pas une famille d'entrepreneurs à la maison, donc mes parents étaient ouvriers, mes frères et sœurs ont fait des études, mais ils sont tous devenus soit cadres, soit salariés, etc. Et j'étais la première, donc je suis l'avant-dernière d'une fratrie de six frères et sœurs. Et donc j'étais la première entrepreneur de la famille. Et donc j'étais un peu comme tout le monde, j'ai fait un peu des études assez simples, hein, d'infirmière diplômée d'État. J'ai travaillé dans un hôpital aux urgences. Et puis un peu le parcours, on va dire, assez simple, mais en même temps très lisse et très sécuritaire, à proprement dit, surtout pour mes parents. Donc c'était une grande fierté pour mes parents de dire que je travaillais avec les médecins. Parce que mes parents ne disaient pas que j'étais infirmière auprès de la famille, ils disaient « travaille avec les médecins », etc. Donc c'est une grande fierté. Et donc un peu de la sécurité de l'emploi, hein, d'être infirmière aussi. Et quand il y a 10 ans, j'ai toujours eu cette, cette envie, ce leadership en moi, mais je ne savais pas en fait. Hein. C'est en découvrant au fur et à mesure, même dans mes années précédentes, dans l'expérience que j'avais quand je travaillais, quand j'étais jeune, dans des fast-food ou dans la restauration, etc. J'avais toujours ce leadership inné en moi, sans prétention. Hein. Et donc, moi, je me souviens quand ma cadre à l'IFSI, donc c'est l'Institut des soins infirmiers, donc c'est l'école des infirmières, me disait, Leïla, tu restes pas infirmière toute ta vie. Tu seras soit cadre, soit dirigeante, etc. J'y croyais pas du tout. Et puis l'opportunité s'est présentée à moi. Et effectivement, il y a 10 ans, j'ai commencé à entreprendre.
Alors,
Pendant un an, je
l'opportunité,
travaillais en tant
elle s'est
qu'infirmière.
présentée comment alors que tu étais justement, tu travaillais avec les médecins, tu étais dans un hôpital?
C'est ça. Bah alors c'est une opportunité familiale. Si tu veux, moi, mon époux, voilà. Si tu veux, moi, mon époux était travaillait dans le secteur des télécommunications, était salarié. Et puis il a eu l'envie, pareil, hein, d'entreprendre, etc. Donc c'était quand même un entrepreneur dans l'âme. Et puis il m'a dit, j'aimerais bien lancer la boîte, etc. Une boîte, etc. Mais par contre, lui, il est très très technique, très focus dans la technicité. Il n'est pas du tout dans la gestion d'une entreprise, etc. Et donc il me disait, mais voilà, je peux pas être au moulin et en même temps au fourneau, donc ça sera compliqué. Et puis là, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Et donc j'ai dit, voilà, je veux bien entreprendre. Mais à une condition, que je sois la présidente, parce que forcément dans une entreprise, voilà, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui décide, il faut qu'il y ait cette responsabilité partagée entre guillemets, mais en même temps, voilà, il faut qu'elle soit bien ciblée et bien identifiée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Et puis donc j'ai créé la boîte avec mon époux. J'étais présidente, c'était la seule condition pour que ça fonctionne. Et donc pendant un
Il a
an, j'ai
accepté.
travaillé comme infirmière. Alors oui.
Il n'a pas le choix.
Il n'avait pas le choix, mais en même temps, ça fait partie aussi de, bah, dès le départ, de poser ses conditions et ses limites. Voilà, toi, tes responsabilités sont ça, moi, mes responsabilités sont ça. Chacun sait ce qu'il a à faire. N'empiète pas sur mon travail, j'empiète pas sur le tien, mais il faut qu'on soit complémentaires. Alors, je dis pas qu'au début, voilà, c'était tout lisse, tout rose, hein. C'était compliqué. Voilà, c'est quand même, on ramène une famille avec nous dans notre aventure. Donc,
Absolument.
et puis, il faut savoir aussi être d'accord dans la gestion d'entreprise, d'accord quand on est une femme et un homme, d'accepter des fois bah, de l'autorité, des idées ou alors des contre-oppositions, en fait. Hein. Donc, ouais, c'était pas facile pendant le début, mais après, c'est comme le vélo, hein. Ça s'apprend et puis après, on prend le rythme. Et après, ça se fait tout naturellement. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'entreprendre avec
Non,
son
son
époux.
mari. Alors, une question vraiment bête et premier niveau, tu étais la bosse de ton mari en quelque sorte.
C'est ça. C'est ça. Je le suis toujours.
Ouais. Donc
Ouais,
lui,
c'est
c'est
ça.
tout ce qui est technique, et toi, j'imagine, c'est tout ce qui est relationnel, marché,
C'est
communication,
ça.
etc.
Exactement.
Vous
Exactement.
avez eu de gros clashs à ce
Effectivement.
moment-là?
Alors, on a toujours essayé quand même d'être intelligent dans nos décisions et dans nos dialogues, parce que voilà, dès le départ, on a entrepris ensemble, mais dès le départ, on a pris bah, des collaborateurs, parce que moi, quand même, faut l'avouer, hein, j'ai ce relationnel, j'ai pris des cours du soir également dans la gestion d'entreprise, etc. Donc, je suis pas partie non plus, je me suis lancée dans le bain, mais j'ai quand même voulu voilà savoir de quoi je parlais, etc. Donc, effectivement, voilà, je prenais des cours du soir dans la gestion de l'entreprise, dans la comptabilité, etc., etc. Et parce qu'au départ, tu fais toujours les choses par toi-même, et au fur et à mesure, bah, tu prends des collaborateurs qui sont là pour ça, en fait, hein. Et donc, tu t'appuies clairement sur leur expertise, sur leur technique, sur leur gestion, etc., etc. Mais dès le départ, alors, je ne dis pas qu'on a eu des gros clashs, parce qu'on a toujours essayé de faire en sorte d'avoir quand même cette relation dans le sens où, en fait, voilà, dans la complémentarité, mais en même temps, même si on n'est pas d'accord, on ne le montrait pas. Parce que dès le départ, on a pris des collaborateurs. On ne le montrait pas. Alors, il nous arrivait quand même d'être pas d'accord sur certains points. Mais pour donner toujours l'exemple auprès de nos collaborateurs, il fallait toujours qu'il y ait un dialogue constructif.
Comme
Arrivé
avec
à la
les enfants, en
maison,
fait, comme quand on n'est pas d'accord avec les pour les enfants.
c'est ça, exactement. C'est exactement la même chose.
Ouais.
Surtout quand on est une femme, on entreprend comme si on dirigeait quand même une vie de famille. Voilà. Parce que le travail, ça reste quand même un bébé que tu crées, que tu conçois. Et là, quand tu le conçois en plus de ça avec ton époux, ça reste vraiment un bébé, quoi. C'est la même chose qu'un bébé. Donc, faut lui apprendre les codes, il faut donner l'exemple, il faut être exemplaire, il faut. Voilà. Et donc, dès le départ, on s'est dit, il faut absolument pas que. Parce que ça reste une faiblesse, hein, de se clasher et de montrer comme quoi, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais il faut que ça reste quand même constructif. Donc, on s'est
Absolument.
toujours interdit de se clasher haut et fort. Mais arrivé à la maison, des fois, on disait, hein, voilà, non, je n'ai pas apprécié, ou alors je ne suis pas d'accord, parce que. Mais on essaie toujours de garder ce feeling qui est notre force aujourd'hui.
Alors, si je comprends bien, le tempérament de leadership, d'entrepreneuriat, en fait, ces skills nécessaires à être entrepreneur, ça, c'était en toi. Les autres les voyaient, en fait. C'était intrinsèque, ça faisait partie de ton identité. Mais ensuite, quand vous avez parlé de concrétiser un projet, bien que tu aies déjà une carrière, donc tu as déjà une formation, etc., en même temps, tu t'es outillé. Tu as étudié
Clairement.
ce qu'il fallait. OK, mais en même temps, tu travaillais. Donc à un moment,
Exactement.
ça devait être compliqué, en fait.
Alors du coup, si tu veux, comme je te disais, pendant un an, j'ai eu cette transition quand même, parce que bah, tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas si ça va marcher, il fallait quand même qu'il y ait une sécurité, surtout quand tu as une petite famille. Donc voilà, pendant un an, je développais l'entreprise, je prenais des collaborateurs et je travaillais à côté, puis je prenais des cours du soir. Donc l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est après, ça devient une passion. Si tu t'entreprends juste comme ça, ben forcément, tu vas te louper à un moment donné. Et puis, surtout au démarrage, hein, tu peux pas, t'as pas les fonds pour pouvoir tout gérer, enfin tout faire gérer d'un coup. Donc, au fur et à mesure, voilà, après, tu te fais accompagner, tu prends des partenaires qui t'accompagnent dans la gestion de la comptabilité, des experts comptables, du juridique, etc., etc. Mais au démarrage, ouais, il faut quand même qu'il y ait quand même quelques notions. Alors, je dis pas, hein, de toute façon, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mot d'op. Pas de mode opératoire, faut savoir, c'est avec l'expérience que tu apprends. Moi, il m'est arrivé des trucs pendant mon parcours entrepreneurial, je ne savais même pas où j'allais, quoi. Donc, je suis tombée, je me suis relevée. Enfin, voilà, tu apprends de. Alors, j'aime pas parler d'échec, parce que pour moi, c'est toujours de l'expérience. Voilà, c'est de refaire, mais autrement. Parce que tu as acquis de l'expérience et tu sais que, voilà, tu es passé par là et que tu vas pas refaire la même erreur. Donc, tu vas le faire autrement, tu vas gérer le risque. L'entrepreneuriat, c'est une vie de prise de risque. Mais tu vas essayer de gérer les risques en prenant après, en anticipant un peu les risques, même si tu peux jamais les anticiper. Mais voilà, tu feras un peu plus attention parce que tu sais qu'il y a des choses que tu as apprises avec ton expérience, tu vois.
Absolument, absolument. Alors, justement, l'énergie aussi, c'est un domaine très pointu. Même si lui, il est dans la technique, mais toi, tu es dans la gestion. Est-ce que tu recommandes d'avoir justement des connaissances dans le domaine qu'on gère quand on est entrepreneur?
Toujours, toujours, surtout quand on est dirigeant.
Ouais.
Toujours. Pourquoi? Parce qu'on est la vitrine de notre entreprise. Si on arrive dans un dîner, dans un séminaire, dans des réunions, et même auprès de tes collaborateurs, enfin, je veux dire, tu es obligé quand même de savoir de quoi tu parles, même si toi tu es là en tant que chef d'orchestre finalement de ton entreprise, tu restes quand même la vitrine. Demain, si tu as un client qui te parle de quelque chose, il faut savoir de quoi tu parles. Parce que c'est toi qui entreprends derrière. Alors, c'est vrai, tu prends des collaborateurs sur qui t'appuyer, etc. Mais tu es là quand même pour donner le. Tu es quand même là en tant que chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il connaît pas la mélodie, c'est impossible. Il va ramener son équipe dans le mur, clairement.
Et toi, comment
Donc,
tu as fait
oui.
justement pour aller vers un sujet aussi pointu quand même?
Alors. Je me suis donné à fond. Donc j'ai étudié les énergies renouvelables, j'ai étudié mon sujet, je suis allée dans des séminaires, je suis allée dans des réunions d'information, je me suis adhérée à des réseaux, à des fédérations, voilà, des associations, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, de toute façon, je veux dire, chaque chose où tu entreprends, c'est toujours en mouvement. Donc, tu vas avoir des nouvelles normes, tu vas avoir des nouvelles technologies, etc. Donc, tu es toujours en train d'apprendre. Donc, dès le démarrage, il faut savoir de quoi tu parles. Tu ne peux pas lancer quelque chose et puis te dire, et puis j'attends que le ciel fasse le reste.
Absolument.
Alhamdoulilah, c'est le ciel quand même qui. Voilà, nous, On est sûr de ce qu'on fait, mais à côté de ça, voilà, on ne peut pas tout gérer non plus. Donc, il y a aussi une forme de destin qui fait que les choses se fassent. Mais à côté de ça, il faut savoir quand même de quoi tu parles. Donc, il faut se documenter, il faut avoir aussi cette, comment dire, il faut rester en veille. Voilà.
Oui,
En veille sur la
absolument.
concurrence, en veille sur ce que les entrepreneurs font. C'est aussi un retour d'expérience, hein, ce que les entrepreneurs font dans ton domaine d'activité. Donc, ouais, il faut parler aussi de son projet. C'est important parce qu'on a toujours tendance à se dire, faut pas qu'on en parle parce que la concurrence, parce que bien au contraire, les startups le font très bien. Ils parlent de leur projet, ça leur permet aussi d'avoir des retours d'expérience, des choses que on n'aurait pas pensé, et puis ça améliore ta vision des choses et puis tes connaissances aussi. Mais oui, le chef d'orchestre est obligé de savoir de quoi il parle.
Absolument. Ta plus grande leçon, on va dire, de vie d'entrepreneur, ça serait laquelle si tu devais en partager une importante?
Alors, ma plus grande leçon de ma vie d'entrepreneur, c'est de ne pas écouter les autres. Moi, enfin, je n'ai jamais écouté les autres parce que tu seras toujours conseillé ou critiqué, entre guillemets, parce que les conseils sont pas forcément toujours bons à entendre, hein. Mais bon, il faut quand même les écouter. Mais je veux dire, on est toujours tiré vers le bas par ceux qui font moins que nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je dirais ma plus grande leçon, en tout cas, si j'avais un conseil aujourd'hui à donner aux entrepreneurs, c'est on vit qu'une fois. Alors, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Il faut être déterminé. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour entreprendre, surtout aujourd'hui. Mais si on écoute les autres, ouais, on ne va pas aller très très loin parce qu'on aura toujours l'envie de penser à des choses qui sont négatives. Donc, et c'est ça le problème aujourd'hui. Je pense que qui peut freiner les entrepreneurs à aller beaucoup plus loin que ce qu'ils peuvent faire actuellement. Et voilà, donc c'est vraiment le conseil aujourd'hui que je donnerais. C'est si tu as l'idée, si tu as l'envie, si tu as ton projet, fonce. Parce
Ouais.
que non seulement on vit qu'une fois, mais en plus de ça, tu pourras le regretter beaucoup plus tard. Donc ouais, il faut se donner les moyens de le faire, y croire. Et puis croire en soi d'abord, c'est le plus important. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est croire en soi. Parce que croire en soi, c'est dégager une certaine confiance. Et puis les autres, bah, auront confiance en vous et croiront en vous.
Alors, justement. Tu as dit, je viens d'un milieu, finalement, où on a toujours cherché la sécurité. Ton entourage proche, tes parents, justement, ils ont pensé quoi de tout ce changement? Parents de quatre enfants, tous les deux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Comment ça a été reçu? Et puis, ta part de Marocaine, quand on est en partie marocaine, on sait que finalement, les parents ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis, et puis il y a la Redat el-Walidine et on a envie de leur faire plaisir, etc.
Ouais. Alors, bah, oui, parce que bon, enfin, voilà, c'est moi, avant d'être infirmière, ma principale passion ou l'envie que j'avais envie de faire, c'était d'être dans la police scientifique. Donc, tu vois, pour te dire, voilà,
Ok.
c'est rien à voir. Mais à côté de ça, quand même, comme je te disais, j'étais l'avant-dernière d'une fratrie de 6 frères et sœurs, dont 4 frères. Donc, le mot police, déjà, dans la tête, dans les yeux de notre communauté, entre guillemets, c'est à l'époque, hein, je ne te parle pas de ça d'aujourd'hui, hein, mais à l'époque, quand j'étais encore jeune et qu'il fallait trouver sa voie après le bac, voilà, on me regardait, enfin, limite, on me regardait de travers, mais c'est bon, quoi, arrête tes conneries. Et donc, j'ai pris la voie de la profession d'infirmière parce que, pas bah, forcément, je faisais des études scientifiques quand j'étais au baccalauréat. Et donc, bah, c'était une voie un peu, bah, comme je disais, sécurité, tranquille, sans vagues. Tu vois, tu prenais un bateau de croisière, mais tu voyais l'horizon. Et donc, voilà. Et mes parents, ils étaient contents. J'étais contente de faire plaisir à mes parents. Voilà. Et puis, quand j'ai commencé à entreprendre, surtout dans un milieu totalement masculin, hein, parce qu'il faut le dire, hein, le BTP, les énergies renouvelables, le secteur des télécommunications, ce sont des métiers très très masculins. Dans mes équipes, elles sont formées, enfin, elles sont faites 90% de la gente masculine. Donc oui, ça a été dur. Mes parents, la réaction, c'est « Ah oui, Lily, qu'est-ce que tu fais ?» Mais tu ne te rends pas compte. Mais tu ne te rends pas compte que tu as une famille. Mais si ça ne marche pas, et puis n'importe quoi, et puis là, tu es bien. Puis c'est un métier qui est appréciable. Le métier d'infirmière, tu aides les autres, etc. etc. Donc ouais, c'était très, très dur au départ. Et puis dans notre communauté quand même, il n'y a pas que les parents, c'est tout un, en tout cas voilà, la famille se cantonne pas aux parents et aux frères et sœurs, tu vois, c'est un peu comme le mariage, mais qu'est-ce qu'ils vont dire tes
Oui.
tantes, qu'est-ce qu'ils vont dire, ça va au-delà de nos frontières, ça monte très haut dans le nord,
Oui,
en
oui.
Hollande, en Belgique, etc. Tu vois, ça va au-delà de nos du cercle familial restreint. Et donc ouais, au départ très très dur, à chaque fois qu'il y avait quelques petits soucis dans le chemin
Oui.
entrepreneurial, ah bah tu vois, je te l'avais dit, ah bah tu vois, et bah voilà, et bah tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est dur, hein, parce que bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, tu seras jamais aidé, compris, surtout au départ, par ta famille proche, entre guillemets, ou alors tes amis proches, ou alors tu vois, et donc si tu les écoutes, t'arrêtes tout, tu vois. Et aujourd'hui, disons que c'est une fierté, hein, familiale, ce que je fais. Au-delà, ça part au-delà des frontières, encore une fois. Oh, ben, c'est une fierté quand même pour mes parents, surtout du milieu et du niveau d'où ils viennent. Alhamdoulilah, je fais plaisir. Je rends ce qu'on m'a appris également et ce qu'on m'a fait dans ma vie. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est très très dur, surtout quand on est une fille. Mais mes deux parents sont marocains, les deux. Hein. Donc ouais, je faisais pas front contre une seule personne là, c'était
ouais,
le père
ouais,
et la
ouais.
mère.
Complètement. Non, mais j'étais induite en erreur en me disant, bon, ben, la maman a dû elle-même peut-être dépasser en fait de tous ces conflits-là, imposer un homme étranger à sa famille. Il fait non, non, mais j'étais partie sur une autre piste en fait.
Moi, j'ai fait la guerre.
Ouais, complètement, complètement, je comprends.
Ouais, c'est les deux.
C'est les deux.
Non, c'est les deux.
Ouais.
Après, moi, mon papa ouvrier à l'époque à Chausson, c'était l'usine Renault. Et ma mère, quand elle est arrivée ici, un peu plus tard, elle a commencé à prendre des cours de français pour parler le français. Elle l'écrivait légèrement, etc. Elle prenait des cours de français, etc. Et puis après, elle est rentrée dans le circuit du travail. Et elle ménagère dans une maison de retraite, et puis elle est montée, elle s'est formée également, et après elle est devenue aide-soignante, auxiliaire de vie, dans une maison, toujours la même maison de retraite. Elle a eu la médaille d'honneur du travail, enfin je veux dire, elle a travaillé, et elle sait ce que c'est, donc elle aussi, elle est montée en échelon, elle s'est formée, elle sait à sa manière, mais ouais, elle sait ce que c'est que le monde du travail, et puis c'est à un moment, c'est une personne qui a énormément de caractère, et donc elle a compris. Même si c'était elle, si tu veux, qui avait plus le besoin de faire plaisir à toute la famille, c'est-à-dire mes tantes, ses sœurs, etc. Non, non, dans le Belgique, patati patata, mon père un peu moins. Et mon papa, à l'époque, c'était le seul qui savait lire et écrire dans là où il travaillait. Et donc, si tu veux, c'était lui qui s'occupait de tous les immigrés qui ne savaient pas lire et écrire dans leur formalité près des usines, etc. Donc, c'était lui-même le délégué syndical après, etc. Donc, si tu veux, la fibre du leadership, je le prends de mes parents.
Ouais, ouais. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.